Ô Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que nous ne travaillons pas pour toi, mais nous savons que tu travailles avec nous. Et c'est ton œuvre qui s'accomplit, non pas notre œuvre, parce que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de bien. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire, et nous le savons. Alors, sans aucune prétention, nous venons maintenant devant toi en te disant, parle Seigneur, nous voulons t'écouter. Donne-nous de nous arrêter sur les choses qui sont les plus importantes pour chacune de nos vies et applique cette parole à nos propres circonstances et que cette parole ne reste pas dans les couvertures du livre mais se fixe dans notre sensibilité afin que dans la vie quotidienne nous puissions nous rappeler les enseignements de l'Écriture et agir avec une conviction profonde et une dépendance totale de ta volonté. C'est la grâce que nous te demandons. Façonne-nous, forme-nous, puisque tu nous dis que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, peut-être aussi pour nous corriger, pour nous convaincre, et nous rendre propres pour toutes les bonnes œuvres que tu attends de nous, car tu veux des œuvres, non pas pour que nous soyons sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, et que le monde puisse voir à notre vie, à nos œuvres, que nous appartenons à notre Père des cieux, pour ta seule gloire. Amen. Eh bien voilà, vous avez commencé cette lecture du livre de Néhémie et en ce matin du 26 novembre 1988, nous continuons par cette étude de traiter notre thème, les caractères d'un vrai réveil spirituel et nous sommes arrivés à notre troisième volet. Les murailles reconstruites sur leur emplacement. Vous n'avez pas encore lu tout le livre de Néhémie, mais comme je vous le disais déjà ce matin, il y a plus de 30 fois dans ce livre la mention des murailles. Le mot muraille revient plus de 30 fois. Et alors, vous aurez peut-être eu le goût de revenir un peu en arrière, comme je vous le disais déjà ce matin, sur le livre d'Esdras, qui était, lui, un scribe, un homme religieux, un scribe expert dans la loi de Moïse. C'était Esdras, un descendant d'Aaron, donc de la tribu de Lévite. Et en lisant dans les précédentes retraites, le livre d'Esdras, nous avons appris bien des choses au sujet d'un véritable réveil. D'abord, celui qui provoque le réveil, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas un homme qui se dit, moi je veux réveiller les autres. C'est Dieu. Et il est libre de réveiller qui il veut. C'est lui qui provoque le réveil. Vous avez ça dans le premier chapitre d'Esdras. Et à quel moment est-ce qu'il accomplit ce réveil? Il l'accomplit à son heure. L'heure de Dieu n'est pas toujours notre heure. Et c'est un principe que nous devons bien garder en mémoire. Et le réveil vient comme un accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses. Et quand il a fait une promesse, il l'accomplit. Mais nous avons vu aussi que quand Dieu a fait une menace, tôt ou tard, même si ça ne vient pas tout de suite, tôt ou tard, le jugement tombe sur ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Il est fidèle dans ses promesses, mais il est fidèle aussi dans ses menaces. S'il y a eu la déportation
de Babylone, eh bien, c'est parce que Israël ou Juda n'est pas revenu, n'a pas écouté la voix du Seigneur qui parlait par ses prophètes. Mais même quand Dieu a dû exécuter son jugement, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, qu'il se réjouit de pouvoir accomplir ses promesses. Comme mon père aimait souvent à le souligner, pour Dieu, et c'est une parole biblique qui se trouve dans Ésaïe, juger, c'est une œuvre étrange. C'est un travail inaccoutumé. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas faire. Juger, il n'aime pas. Mais faire grâce, alors, c'est son affaire. C'est cela qu'il aime. Et c'est pourquoi nos jugements, les jugements qui tombent sur nous, c'est nous qui les avons provoqués. J'ai dit hier, en passant, que Dieu n'est pas dans les cataclysmes. C'est nous qui les provoquons. Comme aujourd'hui aussi, nous provoquons toute espèce de choses dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui veut cela. Mais nous vivons d'une façon contraire à ses lois, à ses principes. Et alors, nous récoltons ce que nous avons semé, que ce soit la pollution et bien d'autres choses. Ne dites pas pourquoi est-ce que Dieu permet la pollution. Dites-vous, pourquoi est-ce que nous agissons de telle manière que nous polluons partout? Et pourquoi est-ce que nous restons avec un cœur pollué? Il faudrait commencer par la purification de nos cœurs. Voilà. De sorte que, souvenez-vous toujours de cela, quand il y a un cataclysme, un tremblement de terre, ou ceci ou cela, eh bien, ne dites pas pourquoi est-ce que Dieu permet cela. Oui, il y a des victimes, et des victimes innocentes. Mais qui est-ce qui est responsable? Ce n'est pas Dieu, c'est nous, nos péchés, nos fautes. Et nous devons prendre cette responsabilité au lieu de toujours accuser Dieu. Pendant des jours sans nombre, le Seigneur nous donne le soleil, la lumière, toute cette beauté que vous voyez aujourd'hui. Vous savez, j'étais saisi aujourd'hui en faisant ma petite promenade habituelle. Je louais le Seigneur et je bénissais. Je lui disais, comme tu es bon, non seulement de nous donner un temps pour nous recréer dans ta parole, mais en même temps d'avoir cet environnement dont nous voulons aussi jouir, n'est-ce pas? Et quand nous jouissons de ces choses de la nature, nous le lui disons. Nous le lui disons et nous rendons grâce au Seigneur. Il est fidèle, il est amour, et il n'a pas voulu seulement nous donner un toit ici, mais il a voulu que l'environnement soit agréable aujourd'hui, que nous puissions bénéficier, profiter de cette merveilleuse nature. Et alors, pour accomplir ses desseins de grâce, Dieu emploie qui il veut, n'est-ce pas? Si vous voulez, par exemple, provoquer un réveil en Russie, pourrait très bien employer Gorbatchev. Il faudrait peut-être prier pour lui. Davantage que nous le faisons, au lieu d'avoir peur de lui. N'est-ce pas? C'est cela. Il nous faut être positif dans nos pensées. Dieu peut faire d'un homme l'instrument de son cœur, même d'un homme qui était opposé à lui. Prenez comme exemple l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, le persécuteur. Dieu a décidé, même avant sa naissance, dans les entrailles de sa mère, il était déjà choisi. C'est fantastique, cela. Pour ceux qui militent pour Provie, ils peuvent prendre cet exemple, hein. Paul, Saul de Tarse, encore dans les entrailles de sa mère, il était connu de Dieu qui allait l'employer pour lui. Et lorsque Saul de Tarse consentait à la mort d'Étienne, Dieu avait une autre pensée. Étienne mourrait, mais Saul deviendrait celui qui propagerait l'évangile. Nous, nous aurions fait mourir Saul de Tarse, puis on aurait sauvé Étienne. Ça, c'est nos voix. Ça, c'est nos pensées. Or, il faut absolument, mes frères et sœurs, et que moi, avec vous, j'arrive à comprendre que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors, on sera toujours d'accord avec ce qu'il voudra. Et au lieu de nous heurter contre la volonté de Dieu, nous le bénissons. Seigneur, je ne comprends pas, mais ce n'est pas étonnant que je ne comprenne pas. Puisque aussi élevé que le ciel est au-dessus de ma tête, aussi élevées sont ses voix au-dessus de mes voix et ses pensées au-dessus de mes pensées. Et voilà qui nous rassure de lui, par lui, pour lui, disions-nous, quand Mahanaïm cette année sont toutes choses. Mais c'est incompréhensible, eh bien, ce qui suffit, c'est de le connaître comme un père. Mon père même. Et je l'ai dit souvent cette année, vous devez prendre conscience que vous êtes aimé de ce Père des cieux comme Jésus lui-même l'était. Dieu ne vous aime pas dans une autre mesure qu'il aimait son propre fils. Comme il aimait son fils, et là vous ne pouvez pas en douter qu'il l'aimait, hein, eh bien il vous aime vous aussi. Et de cela, vous ne devez pas douter. Arrière de moi, Satan, c'est un menteur, celui qui vous fait douter de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Et si vous voulez connaître la mesure de son amour pour vous, souvenez-vous de l'amour qu'il avait pour son bien-aimé, son fils unique. C'est pourquoi vous êtes pour Dieu des bien-aimés. Et cela, c'est tonique quand vous êtes dans l'amour de Dieu, vous êtes aimé de Dieu, aimé du Père. Mais alors, ce Père aime toutes ses créatures, même un païen. Et vous savez, hein, vous devez aimer aussi les païens. Dieu aime les païens. Il a aimé Cyrus. Et alors que Cyrus n'était pas né, il a déjà parlé de lui. Il parlait de lui. Alors que la grâce du Seigneur nous élargisse, hein, nos pieds dans un chemin étroit, mais notre cœur vraiment ouvert pour envelopper toutes les âmes. Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Et nous aussi, nous devons être à l'image de notre Dieu. Enfants de Dieu, nous aimons de l'amour de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu notre conversion pour nous aimer. C'est quand nous étions encore des impies que le Christ est mort pour nous. Et c'est cela que nous devons comprendre. C'est pourquoi vous ne vaincrez les résistances que par cet immense amour. Un amour qui n'est pas une complaisance, qui n'est pas une association au mal, mais qui par-dessus tout croit que Dieu peut. L'amour, il croit tout. Vous le savez ce verset, hein? Il espère tout. Et il ne périt jamais. Il ne nous faut jamais laisser descendre notre amour. Et quand l'amour est descendu, revenez à la croix. C'était notre thème de la première retraite. Donc, Dieu peut réveiller même un païen. C'est ce que vous avez dans le chapitre premier d'Esdras. Et alors, dans le chapitre premier, vous voyez le décret de ce roi Cyrus de Perse. Et qu'est-ce que c'est que la Perse actuellement ? C'est l'Iran, et si Dieu voulait encore sauver Khomeini, il est capable de tout. Il est capable de tout. Le cœur des hommes sont dans les mains de notre Dieu. Alors, vous avez lu ce décret de Cyrus, le Perse, et puis c'était en même temps la réalisation d'une prophétie. Ce réveil sous Cyrus était la réalisation d'une prophétie d'Ésaïe. Cyrus avait été mentionné, de Jérémie. Cyrus avait été mentionné par Ésaïe, au chapitre 45 de son livre, environ 150 à 200 ans avant qu'il naisse. Son nom était là. Et on pense que c'est Daniel qui a pu montrer à Cyrus que Dieu le connaissait et l'avait choisi pour être son élu, pour faire remonter de la captivité un reste de Judas. Et alors, Jérémie, qui avait dû prêcher à Jérusalem que si le peuple continuait de vivre dans le péché, eh bien que Dieu détruirait la ville, le temple, qu'il ne resterait rien, que les murailles, l'enceinte seraient détruites, eh bien, cela s'était accompli, mais Jérémie avait dit en même temps qu'au bout de 70 ans d'exil, Dieu se souviendrait de son peuple en captivité et en ferait remonter. Mais comment il ne l'avait pas dit, hein? C'est dans Ésaïe qu'on pouvait voir que c'est un certain Cyrus qui serait là l'instrument de son cœur. Et quand le temps est venu, Cyrus était né, et tout s'est accompli. Les paroles de Dieu sont dans le cœur de Cyrus, et c'est lui qui est employé pour parler au peuple de Juda qui est en captivité, qui pleure dans l'exil, et qui dit « Qui d'entre vous est de son peuple ?» Tout à coup, une bonne nouvelle. Qu'il monte. Oui, mais quand on s'est déjà un peu installé, même dans la captivité, on s'installe. Ils s'étaient installés dans cette captivité. Puis tout à coup, on leur dit qu'ils ont la possibilité de retourner dans le pays de leur père. Mais dans le pays de leur père, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Des ruines. Et c'est ça que vous devez bien comprendre. On veut faire la volonté de Dieu. On demande à Dieu qu'il nous exauce, qu'il y ait un retour vraiment à lui. Oui, mais pour lui obéir, après, il faut peut-être accepter d'aller vivre au milieu des ruines. C'est pas drôle. Maintenant qu'on s'est installé, on a accepté. Pour finir, on s'habitue même à l'exil, même à la captivité. Et puis on orne un peu sa demeure, comme on l'a vu dans Agé, n'est-ce pas? On a oublié la maison de l'Éternel, mais on a embelli sa demeure. Puis maintenant, tout d'un coup, sort, monte. Puis alors, les moyens. Eh bien, les moyens, ceux qui ne monteront pas, payeront pour ceux qui montent. C'est quelque chose de merveilleux. Et le cœur de ces hommes a été touché, et c'est comme ça que des gens volontaires sont montés. Mais vous voyez, c'était volontaire. Dieu ne vous oblige pas. C'est pourquoi je vous ai dit au début de cette rencontre que celui qui veut, vous êtes venu pour cette retraite. Mais vous ne serez béni que si vous voulez être béni. C'est pas simplement d'être là, mais que le Seigneur touche votre cœur pour que vous disiez « Je le veux, Seigneur. Ta bénédiction, je ne passerai pas à côté. Je la veux, puisque tu la promets. » Mais il faut être de son peuple, alors. C'est pas n'importe qui est appelé. Qui d'entre vous est de son peuple? Et il faut pouvoir montrer notre généalogie, que nous sommes vraiment dans la lignée des enfants de Dieu. Et il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau pour que le Seigneur puisse nous employer. Mais les questions matérielles, l'argent, tout cela sera donné soit par le roi, soit par les croyants qui, eux, n'ont pas vu leur chemin de remontée, mais qui veulent aider ceux et qui ont ce courage. Et alors, on a vu qu'ils ont rebâti l'autel sur ses bases. La croix, pour nous, on en a fait l'application, revient au centre de nos vies, de notre prédication. Et puis, deuxièmement, on a vu, on a construit la maison sur ses fondements, et tous ceux qui travaillaient devaient vraiment être de son peuple. Mais ce que nous avons constaté, c'est que le travail a été arrêté à un moment donné, et on a découragé les gens de construire, et on s'est arrêté. Et il y a eu 15 ans d'arrêt à ce réveil qui avait bien commencé, la maison, le fondement était posé, on arrête le travail, et il faut les prophètes, Zacharie et Agé, qui, par l'Esprit de Dieu, réveillent le peuple, parlent à leur conscience, considérez bien vos voix, et le réveil reprend, sous la direction de Josué, le sacrificateur, et de Zorobabel. Alors, nous voyons, à la fin du chapitre 6 d'Esdras, que la maison était achevée. Elle n'était pas aussi belle que le temple de Salomon, mais enfin, la maison était reconstruite. C'est ce que nous avons vu, donc, dans nos deux dernières retraites. Mais quelle fut la suite de ce réveil? Si vous lisez depuis le chapitre 7 jusqu'au chapitre 10 d'Esdras, vous voyez que, oui, la maison était reconstruite, mais Esdras a été envoyé pour instruire le peuple. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il a trouvé, la maison était là, mais les cœurs étaient de nouveau peu disposé à suivre les enseignements du Seigneur. s'était marié avec des femmes étrangères et on avait déjà repris tous les principes du paganisme. Un mélange de paganisme et de foi juive. De sorte que Esdras, quand il est arrivé là-bas pour les enseigner, lui qui était un docteur de la loi, il a commencé par quoi ? Par s'humilier, par se mettre tout seul dans un coin, par pleurer, par prier, en priant, en voyant que le peuple ne comprenait rien. Ils avaient été délivrés, ils avaient été secourus d'une façon admirable par Dieu. Ils venaient pour les enseigner, puis ils voyaient que les cœurs n'étaient pas là. Alors ils pleurent. Et puis peu à peu, il y a des hommes qui viennent s'agenouiller à côté d'Esdras. C'est beau ça. Il ne leur a pas lavé la tête. Il s'est mis à genoux dans un coin. Et puis, peu à peu, en voyant cet homme qui pleure, ce vieillard, et qui supplie Dieu et qui confesse ses propres fautes à lui, qu'il ne met pas la faute sur les autres, eh bien, il y a un travail qui se fait. Et finalement, à la fin de ce chapitre, vous voyez que les hommes reconnaissent qu'ils ont péché en prenant des femmes étrangères. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Oh, vous me direz, mais il n'y a pas tellement de mariages comme ça. On n'est pas monogame. On n'est pas polygame. Les gens ne sont pas polygames aujourd'hui. Pouf. Quand ils vous disent toute la liste de femmes qu'ils ont connues. Hein? Aujourd'hui au Québec. La semaine passée encore, quelqu'un m'a raconté le nombre de femmes avec qui il avait couché. Comme si c'était glorieux. Tableau de chasse. Mais c'était épouvantable. On parle contre la polygamie. Voilà ce que nous sommes, voilà où nous en sommes arrivés. Mais comme Dieu n'a pas l'air d'intervenir, Dieu, qui s'en soucie. Donc, vous voyez que la parole est toujours la même. Les formes sont peut-être un peu différentes. Alors, on y arrive maintenant. Vous devez vous dire, il s'est allongé sur un livre qu'on n'a pas encore lu, ou... J'espère que vous l'avez lu, mais c'est pour bien arriver, pour qu'il y ait une compréhension et que vous voyez le lien. À la fin, tous ces noms, n'est-ce pas, dans le livre d'Esdras, du dernier chapitre, parce que vous les avez vus quand même un peu ces noms, c'est les noms d'hommes qui avaient pris des femmes étrangères et qui se sont engagés à renvoyer leurs femmes. Et il y en avait de tous les milieux. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des chantres, il y avait des portiers, il y avait les fils d'Israël. Tout était tombé dans cette infidélité. Et c'est leurs noms qui sont écrits. Ceux qui avaient péché, mais qui ont pris la décision de rompre avec leur péché. Vous voyez, verset 44 du dernier chapitre d'Esdras. Tous ceux-ci avaient pris des femmes étrangères, et il y en avait parmi eux dont les femmes avaient eu quoi ? Des enfants, n'est-ce pas ? C'est pas possible autrement. Alors, vous voyez dans quelle situation on se met quand on ne suit pas les voies du Seigneur. Je vous laisse vous-même, j'ai essayé de vous donner quelques sentiers, je vous laisse défricher ces pistes de réflexion et vous en ferez de larges avenues. Mais vous verrez qu'il y a des conséquences de nos inconséquences. Et c'est pas cela que Dieu voulait pour nous. Quand on dit pourquoi est-ce que Dieu permet cela, c'est pas Dieu qui voulait cela. Mais on s'est éloigné de sa parole. Alors on a des conséquences. Alors maintenant, vous avez lu ces paroles. Les paroles de Néhémie, fils d'Acalia. Et vous savez, Néhémie veut dire l'Éternel console. Et Acalia, son père, veut dire l'Éternel afflige. Il y a des pères qui ont connu bien des afflictions, mais il y a un fils et qui est une consolation. L'Éternel console, c'est sens du mot Néhémie. Et il est dit qu'au mois de Kislev, le mois de Kislev c'était le 9e mois dans le calendrier juif, Et ce neuvième mois correspondait à peu près à la mi-novembre, fin octobre, début novembre. Au mois de Kislev, la 20e année, c'est l'année d'Artaxercès, et c'était donc des choses qui se passaient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il arriva que, comme j'étais à Suse, la capitale, c'était la capitale, une des capitales de la, des Mèdes et des Perses, donc Babylone elle-même avait été détruite, Babylone avait été mise de côté, et c'était le nouveau royaume des Mèdes et des Perses qui dominait. Et nous apprenons que là, dans cette capitale de Suse, Néhémie a la visite de l'un de ses frères, qui s'appelle Hanani, l'un de mes frères. Lui et quelques hommes vinrent de Juda. Il y avait maintenant des relations, puisque un résidu juif était remonté de la captivité à Jérusalem, alors les relations pouvaient avoir lieu. Et alors, évidemment, lui qui est encore un captif, mais enfin qui a un bon poste auprès du roi, il est un des officiers du roi, qu'est-ce qu'il est, on va l'apprendre. Une chanson, qu'est-ce que c'était les chansons? Celui qui versait le vin, mais qu'est-ce qu'il devait faire avant? Le goûter, n'est-ce pas? Le roi ne buvait pas avant que les chansons aient bu. Comme ça, s'il était empoisonné, c'était les chansons qui mouraient. Donc il avait un poste qui était assez dangereux. Mais les chansons étaient donc très intimes avec le roi. Puisque le roi savait très bien que si on avait empoisonné le vin, c'était les chansons qui mouraient avant lui. Hein, enfin, pour lui éviter la mort. Voilà les fonctions qu'avait ce Néhémie, mais il était donc très proche du roi. Vous vous souvenez d'un autre chanson? Joseph, n'est-ce pas? Au temps où les chansons du roi Pharaon étaient en prison, il a fait un songe, et c'est Joseph qui lui a expliqué son songe. Donc, les chansons étaient un homme qui avait une grande intimité avec le roi. Que ce soit le pharaon, que ce soit ici Artaxercès. Alors c'est Hanani, l'un de ses frères, lui et quelques hommes vinrent de Juda, donc c'est pas difficile à comprendre ça, et je les interrogeais sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il est amoureux de Jérusalem. Et alors là, vous pourriez lire les psaumes pour voir les sentiments des Juifs en captivité au sujet de Jérusalem, et spécialement les psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés, et que vous trouvez à partir du psaume 121 jusqu'au psaume 133. Mais on peut aussi lire au psaume 137, auprès des fleuves de Babylone, quand ils étaient encore dans la captivité de Babylone, avant les Mèdes et les Perses, là nous nous sommes assis, nous avons pleuré, quand nous nous sommes souvenus de Sion ou Saul qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes, car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie, chantez-nous un des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un seul étranger? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite t'oublie. Hein. C'était des gens qui n'oubliaient pas la ville sainte de Jérusalem. Et ils languissaient après ce lieu. Et ils étaient heureux s'ils pouvaient avoir des nouvelles de ceux qui étaient remontés, qui avaient eu le courage de remonter à Jérusalem. C'est pour vous montrer, il n'y a pas une page de la Bible que vous ne deviez pas lire. Cette lecture d'un psaume vous montre, ou du Cantique des Degrés, nous montre les sentiments qui étaient dans le cœur des captifs qui avaient la crainte de Dieu. Alors la première chose, voilà des gens qui viennent de Jérusalem, on les interroge sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils lui disent ? Les restants, selon une traduction, vous voyez, j'ai plusieurs Bibles ici parce que j'aime toujours étudier mon texte avec différentes versions, parce que cela est clair. Ceux qui sont demeurés de reste de la captivité, là dans la province, sont dans une grande misère. Voilà le témoignage qu'ils reçoivent. Ils sont dans une grande misère. Dans un grand malheur, dit une autre version, et dans la honte. La muraille de Jérusalem est en ruine. Donc, rien n'a été reconstruit autour de Jérusalem. Et ses portes sont brûlées par le feu. Et vous savez que ça peut représenter une ville sans muraille. Une ville sans portes. Vous auriez là, il faudrait qu'on aille lire dans d'autres passages de l'Écriture, ce qu'est une ville sans muraille. Hein. Ça peut, quand il y a la paix, ça peut être une ville ouverte, mais n'importe qui peut y entrer. Mais une muraille, habituellement, elle protège la ville contre les incursions des ennemis. Souvenez-vous d'une banque qui n'aurait pas de porte, hein. Eh bien, qu'est-ce qui arriverait? On pourrait demander à notre frère, hein, M. Papillon, qu'est-ce qui arriverait à une banque sans porte, où les coffres seraient sans muraille? Mais même avec les murailles, on perce les murailles. Hein. Alors, vous voyez, ce que peut représenter une ville sans muraille, elle est en ruine, ses portes sont brûlées par le feu. Alors, quand il entend ces nouvelles, bien, il s'asseye. Quand on dit, j'ai une nouvelle à vous annoncer, asseyez-vous. Quelquefois, c'est une bonne nouvelle, mais on a peur qu'il tombe de joie, alors on lui dit de s'asseoir. Alors, lui, il s'asseye, parce qu'il est affligé. Je m'assis et je pleurai. Ça montre un cœur qui est sensible. Est-ce que ça nous arrive de pleurer? Oh, les hommes, ça ne doit pas pleurer. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'un homme n'aurait pas un cœur qui pleure? Le Seigneur a pleuré. Je m'assieds, je pleurai. Et je menai deuil plusieurs jours. Et je jeûnai. Parce qu'il se dit, il sait que Dieu a employé Cyrus pour faire remonter ce peuple. Que Cyrus a donné les moyens pour qu'on reconstruise la ville. Et puis, ça n'est pas reconstruit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses? Est-ce que quand Dieu commence une œuvre, il ne va pas jusqu'au bout? Oui, il va jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout. Mais nous, est-ce que nous voulons marcher avec lui jusqu'au bout? Oh, c'est trop difficile, c'est trop pénible, on se décourage. On avait de grands projets, puis tout à coup, eh bien, on se limite. Et ce n'est plus le plan de Dieu. Alors, quel est son recours à lui? Bien, vous voyez qu'il a la crainte de Dieu. Je priais le Dieu des cieux. Et c'est une expression que j'aime beaucoup parce que pendant tout le temps de la captivité, c'est une expression que le peuple d'Israël emploie, le Dieu des cieux. Parce que ce n'est plus le Dieu d'Israël, du peuple d'Israël, qu'il a béni dans sa terre. Mais alors, c'est le Dieu des cieux. Parce que le pouvoir, Israël ayant manqué, Israël ayant péché, le gouvernement de Dieu lui a été ôté et a passé à qui? Aux nations païennes. Babylone d'abord. Mais Babylone n'a pas été fidèle, Babylone est mis de côté. Maintenant, c'est les Mèdes et les Perses. Mais les Mèdes et les Perses ne seront pas fidèles non plus, quoiqu'il y ait eu un beau commencement avec Cyrus et Darius. Mais ils seront mis de côté, et qui va leur succéder? Les Grecs, avec Alexandre. Et puis, Alexandre mourant à 33 ans, ça passera à quatre généraux, vous avez tout cela dans le livre de Daniel, et qui est-ce qui succédera à l'Empire des Grecs, la quatrième monarchie? Les Romains. Mais vous voyez que tout se tient, n'est-ce pas? Les gouvernements passent. Alors, nous sommes très inquiets, vous voyez, vous venez de passer dans la semaine, c'était les élections, on s'est dit lequel est-ce qui va, est-ce qui va être au pouvoir. Bien au-dessus de tout cela, hein, Dieu est là. Et vous savez, c'est pas pour les hommes que nous avons à voter, nous avons à prier pour eux. Parce que quel que soit l'homme qui est au gouvernement, eh bien, en finale, ils font la même politique. Et ils emploient des moyens pour les élections, hein, mais à se salir les uns les autres, c'est tellement terrible. Et nous voyons bien que nous n'avons pas à nous mêler de ces choses. Nous avons une politique, celle du ciel, nous avons à prier pour que Dieu agisse à travers ces hommes. Mais quand nous voyons ce qu'ils ont pu se dire l'un sur l'autre, ça nous afflige. Tu m'as retiré des débats du peuple, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique. Nous avons une politique céleste. Nous prions pour eux et nous demandons à Dieu de nous donner d'être des citoyens qui font honneur à leur pays. Je priais le Dieu des cieux et je dis, je te supplie, éternel Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment. Voyez, ça il en est convaincu. Et vous pouvez souligner ce verset, hein. Il garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment. Alors qu'est-ce qui nous est demandé à nous? De l'aimer. Hein. Vous retrouvez Romains 8, verset 28. Toute chose concourt ou travaille au bien de ceux qu'il aime. Hein. Donc vous voyez que on est en plein dans les Écritures du Nouveau Testament aussi. Il garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements, parce que aimer Dieu, c'est quoi? C'est dire qu'on l'aime? Non, c'est lui obéir. Et là, vous avez vraiment l'enseignement de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le véritable amour, c'est une obéissance. Et c'est une obéissance qui n'est pas pénible, parce qu'on aime. Je te prie que ton oreille soit attentive. Il ne prie pas une statue. Elles ont une oreille, mais n'entendent pas. Hein. Mais lui, il prie le Dieu des cieux que ton oreille, il est dans un pays païen, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Elles ont des yeux et ne voient point. Psaume 115, hein, les statues. Il est dans un pays idolâtre, il ne va pas fracasser les statues, je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. Hein. Mais je n'ai pas à invoquer des statues. Je prie le Dieu des cieux au milieu de tout le paganisme que je puis rencontrer. Je ne m'arrête pas aux statues. D'abord, elles sont inoffensives. Ce n'est pas quand j'aurai cassé une statue que j'aurai fait du bien. Alors, ce qui compte, c'est de ne pas garder une idole dans son cœur. Hein, parce que les idoles, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont toujours à l'intérieur. Que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur, que je te fais aujourd'hui devant toi. Vous voyez, il est précis, c'est aujourd'hui que je prie. Et il dit jour et nuit, donc c'est plusieurs jours. C'est aujourd'hui. C'est dans l'actualité, mais c'est plusieurs jours. Je prie jour et nuit pour les fils d'Israël. Ça ne veut pas dire que quand ils prient jour et nuit, qu'ils ne dorment plus. Parce que vous pouvez vous endormir en priant, n'est-ce pas? Et puis vous pouvez vous réveiller aussi en priant. Mais ça ne vous prive pas nécessairement du sommeil. Pour les fils d'Israël, tes serviteurs, et la confession que je fais touchant les péchés des fils d'Israël, il prend les péchés des fils d'Israël sur lui, que nous avons commis contre toi, moi aussi. Oh, c'est beau ça, hein? Il dit pas les autres, mais il dit moi aussi. Ils se sont responsables, et non seulement lui, mais la maison de mon père. Nous avons péché. Il sait que tout n'a pas été parfait dans la maison de son père. Nous avons péché. Et c'est par là qu'il faut commencer, reconnaître nos manquements. nous avons très mal agi contre toi. Nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandés à ton serviteur, Moïse. Donc, c'est la parole que vous trouvez dans le Pentateuque. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant, si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Vous voyez, il est instruit dans la parole. Et il reconnaît, ça a eu lieu. Tu l'avais dit, c'est le chapitre 28 du Deutéronome qu'il cite. Et vous voyez comme notre prière doit être imprégnée de la parole. N'est-ce pas ? Il prie, mais conduit par une parole. C'est pas vague. Tu as dit cela, et je reconnais que ça s'est passé. Mais tu as dit aussi, si vous revenez à moi, et que vous gardiez mes commandements, et que vous les pratiquez, quand vous dispersez, serez au bout des cieux, je les rassemblerai de là, et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Donc, vous voyez, c'est beau. Il semble que c'est une impossibilité, mais tu l'as dit, Seigneur. Tu as dit cette parole, que tu ramènerais, même si c'était au bout des cieux. Car qu'est-ce que c'est pour Dieu ? Alors, ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Toutes ces expressions, vous les trouvez déjà dans l'Exode, n'est-ce pas ? Quand Dieu fait traverser Israël de l'Égypte, il lui fait traverser la mer Rouge à main forte et à bras étendus. Il a dit, je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs. Parce que vous voyez, comme du temps de Daniel, Daniel aimait à se réunir avec les trois jeunes Hébreux, avec quelques-uns qui pouvaient partager ses sentiments et prier. Et la prière de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton nom. Oh, mes amis, si nous étions davantage à craindre son nom et à prendre plaisir à craindre son nom. Il est dit, c'est Jésus qui dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont au Père, elle leur sera accordé. Il y a une force dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on devrait se retrouver pour prier ensemble? Non pas pour jaser de la pluie et du beau temps, hein, mais pour porter peut-être un besoin précis au Seigneur. On sait qu'une personne est dans la peine, dans la souffrance, eh bien on se rassemble et on prie ensemble. C'est pas jaser du Seigneur. C'est tout autre chose. C'est prier le Seigneur. Avec des besoins précis, aujourd'hui, Seigneur, tu l'as dit, eh bien, tu vois ton enfant, tu peux intervenir, et on aurait des exaucements. Et fais réussir, aujourd'hui, vous voyez, le mot, c'est pas dans un mois, ou dans deux mois, ou dans trois mois, ça peut peut-être être dans un mois, mais pour Néhémie, c'est l'aujourd'hui de Dieu, le temps de la grâce, l'aujourd'hui de Dieu, une expression que j'aime beaucoup. Fais réussir aujourd'hui ton serviteur et, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant qui ? C'était le roi, il n'est pas devant le roi, devant cet homme. Hein ? Devant cet homme. Quand il prie, il parle à Dieu de cet homme. Quand il sera devant le roi, il aura une autre attitude, il aura tout le respect possible. Hein ? Mais quand on s'adresse à Dieu, qui sont ces gens-là, au placé, ce sont des hommes. Et tous les hommes sont dans la main de Dieu. Et il incline le cœur même des rois comme des ruisseaux d'eau dans sa main, cet homme. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce que nous craindrions un homme dont le souffle est dans les narines, nous dit une autre parole, hein ? Vous ne devez pas craindre les hommes. Or, nous sommes tout le temps paralysés par la crainte des hommes. Ils sont puissants. Oui, mais quand ils sont sur leur lit de mort, vous avez vu leur puissance ? Ils ont fait trembler le monde. Ils sont puissants. Mais ce sont des hommes. Or, qu'est-ce qu'il était, lui ? Échanson du roi. Voilà. Moi, j'étais échanson du roi. Je lui donnais le vin à boire, après l'avoir goûter. Et c'est tout ce qu'il dit de lui. Hein. J'étais échanson du roi. Mais on sait que les échansons, c'était des officiers royaux. Bon. Alors, vous avez fait connaissance avec notre Néhémie. Et peut-être que vous avez pris déjà quelques leçons pour vous-même. Maintenant, vous avez le chapitre 2. Alors, il arriva au mois de Nisan. Le mois de Nisan, c'était le premier mois pour le calendrier israélite, mais il y avait eu aussi des changements, l'influence de la Perse, mais enfin, ça faisait 4 mois après. C'était le premier mois. Il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi, donc c'est la même année, mais ça faisait 4 mois après. La 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et je le donnai au roi. Donc, pendant tout ce temps-là, pendant ces 4 mois, il avait été en prière, mais d'une façon très précise. Mais c'était toujours aujourd'hui pour lui, hein, ce temps-là. C'est l'aujourd'hui de Dieu, le temps de la grâce. Je n'avais pas été triste en sa présence. Et je vous ai dit que chez les orientaux, là, on ne devait pas être triste en la présence du roi. Il fallait toujours montrer une bonne figure. Or là aussi, nous, quelle est la figure que nous montrons? Dès qu'on a un bobo, on est grimaçant. Alors, comment voulez-vous que notre roi, le Seigneur, soit glorifié? Alors, souvenons-nous que nous avons aussi un témoignage à rendre de ne pas être triste en la présence des autres. Et le roi me dit, parce que vous voyez, on nous regarde. On n'est pas conscient qu'on nous regarde, et pourtant on nous regarde. Moïse, quand il est descendu de la montagne, lui ne savait pas que son visage rayonnait, je vous l'ai souvent souligné, hein, parce qu'il avait parlé avec lui. C'est le meilleur moyen d'être dépréoccupé de nous-mêmes. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Quand nous parlons avec Dieu, on ne s'occupe plus de soi. Hein? On est occupé du Seigneur, et quand on est occupé du Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Le visage rayonne. On ne se refait pas la façade. Hein? Quelqu'un m'a dit l'autre jour que Marilyn Monroe, hein, pour vous dire quelqu'un de bien, elle disait, il me faut 7 heures pour devenir Marilyn Monroe. Il lui fallait 7 heures de travail, de maquillage, de peinturage, de raclage, hein, pour être Marilyn Monroe. 7 heures de temps devant son miroir pour se créer cette Marilyn-là. Bon, j'ai rien contre elle, et puis elle n'est plus. Mais vous voyez, nous-mêmes, le meilleur moyen, le meilleur salon de beauté, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur vous met sa beauté sur lui, sur vous. Alors le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Et pourtant tu n'es pas malade. Cela n'est rien que de la tristesse du cœur. Vous voyez que ce roi quand même, il est assez intime, et puis il se rend compte qu'il est humain. Et il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Alors j'eus extrêmement peur, justement, parce que on ne devait pas être dans la présence du roi, dans la tristesse. Et alors je dis au roi, que le roi vive à toujours. Vous voyez, il ne dit pas cet homme-là, mais il respecte son roi, que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères est dévasté et que ses portes sont consumées par le feu? Il a la liberté, parce qu'il voit que le roi est disposé à l'écouter, lui demande des nouvelles de son état, de sa santé, et il s'ouvre au roi. Le roi lui dit, que me demandes-tu? Donc vous voyez, il n'a pas formulé encore de demande, mais c'est le roi qui vient au-devant de lui. Une autre version dit, que cherches-tu donc à obtenir? Donc, le roi l'aide. Mais qu'est-ce qu'il fait avant de parler? Vous avez remarqué ce verset? Je priais le Dieu des cieux. Il est devant le roi. il ne se met pas à genoux en prière, hein, mais intérieurement, il invoque le Seigneur. C'est ça qui est beau. Quelle que soit votre situation, où que vous soyez, quelle que soit la personne qui est devant vous, vous pouvez prier. Vous priez, vous criez à Dieu. Mais justement, vous êtes en contact avec Dieu. Je priais le Dieu des cieux. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. Vous voyez qu'il, pendant tous ces mois où il a prié, il a eu vraiment à cœur une œuvre. Il n'est pas allé au petit bonheur la chance en se disant « j'irai voir ». Mais il a, dans son cœur, à cœur de reconstruire la muraille. « Je la bâtirai ». C'est un plan qu'il a dans son cœur. Et alors, c'est tellement beau. Alors, le roi me dit « et la reine était assise à ses côtés ». Donc, vous voyez, on ne met pas les femmes de côté. La reine était là. Et on peut penser qu'elle avait subi aussi l'influence d'une autre reine qui s'appelait Esther. Enfin, c'était dans... on pense que c'était peut-être la grand-mère. La reine était assise à son côté. Il y avait eu une influence juive, quand même, auprès des rois de Perse. Elle était donc favorable. La reine était favorable à ce que... Néhémie allait demander « Combien de temps durera ton voyage et quand reviendras-tu ?» Et il plut au roi de m'envoyer et je lui fixai un temps. Et vous savez combien il a fixé ? Combien de temps ? 12 ans. Mais vous voyez, il faut aller lire plus loin. C'est comme un puzzle. Il a fixé 12 ans. C'est quand même quelque chose. De quitter son roi pendant 12 ans. Il a osé demander ce temps-là, parce qu'il avait quand même calculé, ça ne se construit pas comme ça, hein, reconstruire la ville, les murailles. Et il plut au roi de m'envoyer, je vais fixer un temps, verset 7, et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'il me fasse passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Azab, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire de la charpente des portes du château fort attenant à la maison et pour la muraille de la ville. Il fait sa commande. Hein. Et pour la maison dans laquelle je dois entrer. Et le roi me donna selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Voilà le secret de la réussite. Il s'est adressé à Dieu et la bonne main de Dieu est sur lui. Et quand la bonne main de Dieu est sur nous, eh bien, c'est le Dieu de l'impossible. On voit des choses extraordinaires se réaliser et nous sommes étonnés. Et je voudrais que vous arriviez justement à être de ceux et de celles que le Seigneur va étonner. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour moi, disait Dieu à la vieille Sarah, qui disait, mais c'est pas possible que j'ai un enfant. Le Seigneur est capable. La question pour nous, c'est que la bonne main du Seigneur soit sur nous. Mais alors, c'est là qu'il est précieux de voir le contraste qui existe entre Néhémie et Esdras. Si vous reprenez l'histoire d'Esdras, lui aussi a été envoyé par le roi pour aller enseigner à Jérusalem. Et je reviens au chapitre 8 d'Esdras. Quand le roi lui commande de monter à Jérusalem. Il est dit au verset 15 du chapitre 8, « Je rassemblerai vers le fleuve qui s'en va vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Et je considérai le peuple, et il voit qu'il lui manquait des sacrificateurs, etc. » Et alors, passons plus loin pour aller rapidement, quand tous, verset 21, est là, près du fleuve Ahava, où il avait rassemblé le monde qui allait monter avec lui à Jérusalem, je publiais un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu et pour lui demander le vrai chemin. Parce que vous savez, remonter jusqu'à Jérusalem, il fallait traverser le désert et il y avait des bandes de brigands et ils étaient, c'était tout un convoi de choses précieuses et ils auraient pu être assassinés en chemin. Et il demande le chemin, le vrai chemin pour nous et pour nos enfants et pour tout notre avoir. Ils ne vont pas perdre quelque chose. Car, verset 22, j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi en disant, la main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Et nous jeûnâmes, et nous demandâmes ça à notre Dieu, et il nous exauça. Et alors, verset 31, nous partîmes du fleuve Ahava le 12e jour du premier mois pour aller à Jérusalem, et la main de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. Et nous arrivâmes à Jérusalem, et nous demeurâmes là 3 jours. Il n'avait rien perdu, aucune vie humaine, et aucun trésor qu'il rapportait au temple de Jérusalem. Ça, c'est Esdras, le scribe, l'homme pieux, le serviteur de Dieu, qui lui ne veut pas demander au roi des troupes, une cohorte. Hein. Il a dit au roi que la main de Dieu était là, alors il a une foi totale et il n'a pas besoin de demander ça au roi. Il dit, j'aurais eu honte, parce que j'avais engagé Dieu dans l'affaire. Tandis que notre Néhémie, qui est un, j'aime pas employer le mot laïque, mais enfin, c'est pas un prêtre, c'est un homme qui a un poste d'administrateur dans le royaume des Mèdes. Lui, il n'a pas le même degré de foi, c'est pourquoi... nous ne devons pas prendre seulement un homme comme exemple et dire... Nous devons être des gens comme Esdras. Si tu as la foi pour être comme Esdras, sois comme Esdras. Mais si tu n'as pas la foi comme Esdras, si tu es un ennemi, sois un ennemi. Une des dernières paroles de mon père, avant sa mort, 2 mois avant sa mort, il m'a dit, Gaston, sois toi-même. Hein? C'est vrai ça. Nous ne devons pas imiter, devenir des singes. Nous ne sommes pas sur la planète des singes. Nous avons à agir avec le Seigneur. Il ne demande pas à tous la même chose, comprenez-vous? Alors, à l'un, il lui demande d'être conséquent et de faire telle chose, à un autre, il lui demande peut-être mais, des choses qui sont très, très importantes, mais qui se feront d'une autre manière. Alors, ayez cette largesse, et ne jugez pas les autres. Estimez votre prochain supérieur à vous-même. Et ne dépassons pas notre mesure de foi. C'est pas parce que telle personne a fait cela que nous devons faire cela. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il était très impressionné par l'œuvre de Georges Müller, et il aurait voulu faire comme Georges Müller. Mais Georges Müller, en son temps, au siècle dernier, il a eu une vision arrêtée et il a agi et Dieu l'a béni. Mais celui qui aujourd'hui voudrait faire son petit Georges Müller, eh bien il se trompe et Dieu ne lui demande pas. Ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle dans ce qu'il nous a commandé. Alors, je vous dis simplement cela pour que vous puissiez voir comment on peut étudier la parole avec profit. Mais, pour l'un et pour l'autre, la bonne main de l'Éternel était sur eux. Pour Esdras, dans une autre situation, et pour Néhémie, dans cette situation où il était entouré des forces du roi et où il avait des lettres de créance. Verset 9. Et je vins auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur donnai des lettres du roi. Donc il avait une recommandation. Claire. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et quand Sanballa, le Horonite, c'était un des chefs des Samaritains, de ces gens qui avaient une responsabilité pour le roi, mais qui étaient là-bas, à Jérusalem, et qui n'aimaient pas les Juifs, et Tobija, le serviteur Ammonite. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire Ammonite? C'était les fils d'Ammon, hein. Et les fils d'Ammon, ils descendaient de qui? De Lot, n'est-ce pas? De Lot. Mais d'une drôle de manière, n'est-ce pas? Les filles de Lot avaient couché avec leur père. C'était les descendants de l'inceste, les Ammonites. Et c'était une abomination aux yeux de l'Éternel. Or aujourd'hui, n'est-ce pas, l'inceste, on voudrait le légaliser. Vous savez bien que ça se passe. Eh bien oui, c'était des descendants des Ammonites. Alors, ces gens-là, quand ils apprirent que Néhémie était là, et ils savent bien que Néhémie est un officier royal et qu'il a un certain pouvoir, mais eux qui sont là, qui ont aussi un poste, mais qui ne sont pas de la race juive, ils furent très mécontents. Et c'est très beau comme il est dit, de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Est-ce que nous sommes de ceux qui voulons le bien de nos frères? Si vous voulez le bien de vos frères, il y en a qui seront mécontents. Parce qu'ils ne vivent que dans la zizanie, que dans la discorde. Ce qui compte pour nous, c'est de vouloir le bien de nos frères. C'est cela qui doit nous dominer. Et même s'il faut disparaître, ce qui compte, c'est que nous voulons le bien de nos frères. Mais il y en a qui seront mécontents. Ils furent très mécontents de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien d'Israël. Vous voyez que nous pouvons prendre cette parole et nous en nourrir. Et j'arrivais à Jérusalem, malgré que on sait qu'il y a des gens qui seront mécontents de notre arrivée. J'arrivais quand même à Jérusalem. Et je fus là 3 jours. Je vous en ai déjà parlé de ces 3 jours où il s'arrête. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et je me levai de nuit. Pourquoi pas 2 jours? Il ne veut pas ébruiter la chose. Il veut voir ce qui se passe. Il veut avoir une vue d'ensemble de la situation. Je me levai de nuit. Moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Je n'avais informé personne. Vous savez, quand vous commencez à réunir un comité pour prendre une décision, c'est... Excusez, non, je ne veux pas dire ça. C'est fichu, hein. Vous n'arriverez à rien, bien souvent. Ce n'est pas parce que je veux être indépendant que je dis cela, hein. Mais la plupart du temps, un comité qui se réunit décide de nommer un sous-comité et puis on ne fait rien. Ça n'avance pas. Dieu travaille avec des hommes qu'il choisit et auxquels il donne des compagnons, ça c'est vrai, hein. Mais il y a une vision. Et si vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous serez toujours en travail. Il nous faut une dépendance totale du Seigneur. Et ça, je le demande pour chacun de vous. Mais dans la communion des saints. Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Eux, ils étaient... Ils se sentaient concernés, ils avaient accompagné Néhémie. Alors ils étaient motivés. Ils n'ont pas dit non, mais moi cette nuit j'ai envie de dormir. Les gens qui ont envie de dormir, ben, qu'ils dorment, je ne compte pas sur eux. Non, mais je ne veux pas les empêcher de dormir, dormez. Mais ce n'est pas sur eux que je peux compter. Alors, je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes. Vous savez, on a lu le livre des juges. Quand Gédéon a voulu sauver son peuple d'Israël avec une multitude d'hommes, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ils sont trop nombreux. Et ils sont descendus à 300 seulement. Alors, tout cela, c'est quelque chose qui leur est resté. Et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire. On ne peut pas toujours partager. Les gens ne sont pas prêts. Alors, j'ai cette vision, mais je l'ai dans mon cœur. je n'avais mis personne au courant de ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire. Vous avez à faire personnellement avec le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Pour lui, c'était pour Jérusalem. Je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. C'était pas en Cadillac. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du Chacal, vers la porte du Fumier, et je considérais les murailles. Voilà. Il a à cœur de construire les murailles, mais il veut d'abord voir ce qui reste de ces murailles. Alors, il fait une inspection générale des murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Et alors, je vous ferai peut-être un dessin après sur le tableau pour vous montrer ces portes. Et les portes consumées par le feu. Je passais de la porte de la fontaine à l'étang du roi. Il n'y avait pas de place où put passer la bête qui était sous moi. Pourquoi? C'est avec des décombres. Tout était en décombres. Il y avait bien la maison qui était reconstruite, mais tout autour de la ville, c'était des murailles en ruine. Et je montais de nuit par le torrent, et je considérais la muraille. Mais vous comprenez, vous ne pouvez pas prendre n'importe qui avec vous pour avoir une telle vision. C'est tellement des ruines que ceux qui seront avec vous nous diront, ça ne vaut pas la peine. Laisse, abandonne. Tu vas... C'est de la police que tu vas faire. Hein. Ah non, non, il ne peut pas en parler. Je considérais la muraille. Et je m'en revins et entrai par la porte de la vallée et je m'en retournai. Or, les chefs ne savaient pas où j'étais allé. C'est pas un cachotier. C'est un homme sage qui ne va pas compromettre par des discussions ce que Dieu a mis dans son cœur. Ils ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. C'est pas nécessaire de tout raconter. Et jusque-là, je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Hein? Parce qu'on peut s'occuper de l'œuvre d'une drôle de manière, hein? En ne faisant rien. Après toutes les promesses électorales possibles. Alors je leur dis, c'est seulement une fois qu'il a la vision globale de ce qui est à faire, il leur dit, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Il ne nie pas la misère, mais il la souligne, c'est vrai. Mais c'est tellement misérable. Jérusalem est dévastée, ses portes sont brûlées par le feu. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y avait les pillards qui pouvaient entrer comme ils voulaient dans la ville et massacrer et emmener comme esclaves n'importe qui. Venez, alors là maintenant, il a une certitude, il a une conviction dans son, venez et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et alors là, on va lui dire, mais qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu veux dire? Et je leur racontais, il a quelque chose à leur dire. Quoi? Comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi. Comme les apôtres, quand ils revenaient à Jérusalem, ils racontaient à l'église ce que Dieu avait fait avec eux. J'aime beaucoup cette expression. Ils racontaient aux croyants qui étaient réunis ce que Dieu avait fait avec eux. C'est pas eux qui avaient fait des choses pour Dieu, c'était Dieu qui avait fait avec eux. C'est ça qui est capital. Moi, je peux pas servir Dieu, mais lui peut se servir de moi. Ce que je vous ai souvent enseigné, qu'il me soit fait selon ta parole. Fais avec moi ce que tu veux. C'est la leçon de Marie et qui dit comment ces choses peuvent-elles se faire. C'est pas elle qui les fera, c'est Dieu qui fera avec elle. Alors, donnons-nous au Seigneur comme Marie s'est donnée elle-même au Seigneur, afin que le Seigneur accomplisse. Comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi. Et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites, parce que le roi s'était engagé pour la reconstruction de Jérusalem. Et alors, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Vous voyez, maintenant, s'est communiqué. Et c'est dans le cœur de ces hommes. Il ne fait pas une longue réunion d'appel. Mais eux-mêmes, après l'avoir entendu, ils disent, levons-nous et bâtissons. Ils prennent cette décision. Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Et ils sont d'accord de bien faire. Alors, évidemment, quand il y a une décision qui se prend comme ça, qu'est-ce qui va se manifester? Les ennemis, les opposants. Vous ne devez pas être découragé parce qu'il y a de l'opposition. On ne va pas vous comprendre. On va vous suspecter. Quand Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem, l'Arabe, vous voyez, ils se réunissent tous contre quelqu'un qui veut le bien du peuple. Ils sont tous. Ils l'apprennent. Mais qu'est-ce qu'ils font d'abord? C'est toujours la même chose. Ils se sont moqués. Vous les connaissez, les moqueurs? Et même parmi les chrétiens, il y a la moquerie. Et puis, non seulement ils se moquent, mais ils nous méprisent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui êtes-vous pour faire quelque chose? Mais ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose. C'est Dieu qui va faire quelque chose avec nous. Nous ne sommes pas des agents, nous sommes des instruments. Comprenons-le bien. Ils nous méprisèrent. Et alors ils dirent, qu'est-ce que vous faites là? Et puis, immédiatement, il y a la suspicion. Et puis, ils nous font comprendre, mais vous voulez vous révolter contre votre roi? Contre le roi? C'est déjà un commencement d'accusation. La moquerie, le mépris, et puis ensuite, une insinuation. Au fond, on sait bien ce que vous voulez. Vous voulez vous révolter contre le roi. Hein, vous devez passer par les incompréhensions et puis vous devez accepter qu'on dise du mal de vous. Est-ce que vous l'avez accepté? Qu'on dise du mal de vous, quand vous voulez le bien du peuple. Qu'on dise du mal de vous et qu'on le redise et qu'on le colporte et que ça dure depuis des années. Parce que les ennemis du temps du premier réveil, hein, ils étaient morts, eux. Mais il y en a d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui ne meurt pas, c'est Satan, qui est toujours là et qui met de l'opposition dans les cœurs d'autres hommes. Alors je leur répondis, le Dieu des cieux, lui, il ne dit pas « moi j'arriverai ». C'est pas un « moi je n'ai ». Quoi qu'il en ait quelquefois l'apparence, hein, parce qu'il a l'air de se mettre en avant, mais pas du tout. Le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Vous ne pouvez pas faire marcher des gens qui n'ont pas à cœur le Seigneur. C'est avec le Seigneur qu'il faut marcher. Eux, ces Arabes, ces Horonites, tout ça, ils n'avaient pas de souvenir à Jérusalem, ce n'était pas une ville qu'ils aimaient. Ils y étaient là pour dominer, mais lui, il avait ce Néhémie. Eh bien oui, il avait une part, il avait un droit, puis il avait un souvenir à Jérusalem. Voilà une première lecture. On a fait qu'effleurer, n'est-ce pas? Mais enfin, on est arrivé à ce moment où une décision est prise, nous allons bâtir. Et alors, cet après-midi, vous aurez le chapitre 3 et 4 à lire, et nous allons voir ce que nous pouvons recevoir de ces chapitres, et c'est ainsi que nous saurons ce que c'est que la vraie séparation et comment bâtir les murailles, et nous en ferons l'application pour le temps d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question? Notez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je n'ai pas la prétention de tout dire, mais je voudrais que vous puissiez au moins avoir le goût de lire cette parole et de dire il y a quelque chose pour moi, que j'ai compris pour moi. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, n'est pas à construire une muraille, mais enfin, vous pouvez vous lever pour bâtir. Levons-nous et bâtissons. Ô notre Dieu, nous voulons te demander que nous ayons à cœur ton œuvre, l'ouvrage que tu veux nous donner à accomplir ou que tu veux accomplir par nous. Nous voulons nous tenir devant toi pour recevoir ta force et nous décider vraiment pour toi en Jésus-Christ.